Bene, buongiorno a tutti e va qui l'emissione dell'associazione Ben Leo. As ben parla?
Mai de casdi.
Alla revei a nostra emissione. Chantal, anem parla de che?
Ah, è una devignola.
Ah, è una devignola.
La seconda metà, anem parla de che cucarenga se passa au siècle 18 pendent la seconda metà. Dino Gévaudan, che è attualmente a Lozère, e donc all'epoca è un paese isolato, pauro, un paese di pastre e di loups.
Ah, e di loups. Avant, on a escouté la famille Artus che nous joga un petit trozzo di musica e après, contare la bestia di Gévaudan.
Époque, donc la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la province dont on va parler, est presque quasiment rurale, enfin de manière générale la province. Mende, on est à Mende, la plus grande ville de notre province, compte 3000 habitants. Et le Gévaudan, parce que c'est du Gévaudan dont on parle, est alors divisé en quatre grandes régions, au sud les Cévennes et l'Écosse, et au nord l'Aubrac et la Margeride. Et dans la Margeride, une zone de montagne au relief arrondi, c'est là que sévit la bête du Gévaudan.
Eh ben qui ?
Le pays est rude, le climat froid et le sol ingrat. La pauvreté y est générale. Les paysans sont souvent menacés par la disette. Et ceux qui ont des propriétés suffisantes élèvent des petits troupeaux de moutons pour la laine, de bœufs pour la viande ou le labour, ou de vaches pour le lait. Et dans cette région, chaque été, des troupeaux de moutons transhumants viennent du Languedoc pour estiver sur les pelouses de la Margeride.
Donc, à cette époque, seconde mitad du siècle XVIII, les enfants ne sont pas forcément scolarisés. Et à l'entour des 7 ans, il y a force qui commence de partir déjà les œuvres agricoles des Sidgènes, surtout d'une famille nombreuse et pauvre, qui sont justement nombreuses, les familles de force enfants. Faisaient même la garde des animaux domestiques à d'enfants de 13 ou 4 ans, pichounés, sous la surveillance des six frères et sœurs et mailles grands, à quel ils jouent une pastre et pastresse se récampent per ameu ou per village, per garder les troupeaux sur la propriété des sidgènes ou des pastures collectives qui appartiennent à l'ancien des villages. Faut dire qu'à cette époque, les enfants sont mal pichots que eux. Ainsi, entre 6 et 14 ans, sa taille est entre 1 mètre et 1 mètre 40. Et dans des régions comme la Margeride, soumises à la malnutrition, les enfants en détail inférieurs à la médiane. À cette époque, les loups sont force nombreuses dans les campagnes. Les paysans custègent régulièrement les loups. Un peu de loups enrabillés, mais pas trop de loups ordinaire, c'est-à-dire à quelque s'attaque les animaux domestiques, car l'animal a peau de l'homme.
Et l'affaire de la bête du Gévaudan va se produire en juin 1764, pour se finir en juin 1767. 3 ans. Dans cette histoire de la bête du Gévaudan, il y a deux temps. Le premier temps se déroule de juin 1764 à septembre 1765, un peu plus d'un an. C'est le temps des attaques les plus nombreuses et les plus terribles. Et à la fin de cette période, un gros loup va être tué et sa famille également. Le deuxième temps, ce sont les années 1766 et 67, avec une baisse notable des agressions. Mais au printemps 1767, il y aura une recrudescence des attaques.
En 1764, c'est le début des attaques d'une bestie qui tue d'enfants et des femmes principalement. Mais de la mitad des attaques vont provoquer des naufragures graves ou la mort. La première réaction de la population est de s'apparer à mes armes improvisées et en faisant quand même appel à Cassaire, qui vont travailler sous la direction des seigneurs locaux. Parce que sont aquelles qui ont théoriquement saoulé l'oudré des portats d'armes à fiot. Mais enfin, force paysans riz, des bourgeois, des curats, en elle también un fusil ou un pistolet.
Très vite, les autorités encouragent les chasseurs gévaudanais et favorisent l'utilisation du poison. Dès la multiplication des attaques, le pouvoir monarchique intervient pour mettre fin aux agressions. Et le pouvoir va offrir des primes aux chasseurs, primes qui atteignent un total de 10 600 livres, dont 6 000 de la main du roi. Et cette somme est énorme car elle correspond à 30 années de salaire d'un ouvrier agricole qui travaillerait tous les jours. Du coup, de nombreux chasseurs étrangers au Gévaudan viennent essayer de tuer le loup dans le Gévaudan. Mais ces premières mesures s'avèrent vite inefficaces. Je rappelle que l'affaire a commencé en juin 1764 et 4 mois après, en novembre 1764, les autorités font appel à l'armée. L'armée, c'est les dragons qui sont commandés par le capitaine Duhamel. Mais les conditions climatiques sont dures et Duhamel et ses hommes ne parviennent pas à mettre fin aux attaques mortelles de la bête du Gévaudan. La multiplicité des attaques affole les populations. Est-ce qu'il s'agit d'un lion ? Est-ce qu'il s'agit d'un loup-garou ? D'un homme déguisé en loup ? D'un sorcier ? D'un ours ? Bref, ça s'affole.
La situation est à la même grève qu'en février 1765, l'oreille mande des casseurs des loups professionnels, c'est-à-dire des louvetiers. Ce sont des gentilshommes normands, les Deneval, le père et le fils, ajuda per sieikan limier et mantu un tiraire, et malheureusement, s'entendon pas à Méliduamel et obtenant sa partence. Mais elle est tambien son suspresse per l'outen, la fraie, la neu, la pleuille, la neble, din le Gévaudan et din son relieu. Et sous obligea, elle est tambien des recours et y battues collectives que m'expressavons, réquisitionnant les paysans qui, en même temps, n'ont pas travaillé à l'itère. Et mai, les battues dévastent les camps. Et donc, les Normands sont impopulaires.
Et voilà. Et donc, les Enneval, ben, eux aussi vont échouer à éliminer le loup du Gévaudan. Et du coup, Louis XV envoie dans le Gévaudan son porte-arquebuse, François-Antoine, qui est lieutenant des chasses royales. Donc, les Enneval partent, hein, quittent le Gévaudan, 5 mois après leur arrivée, ils ne sont pas restés longtemps, en juillet 1765.
François-Antoine et son fils, Antoine de Beauterne, s'installent dans la région du Mont Mouché, où ils se concentrent de maille à maille des attaques de la bestie. Ils sont accompagnés de 14 tirailleurs expérimentés. Mais au contraire de ses prédécesseurs, ont de bonnes relations avec les autorités locales et la population, et donc mettent fin à l'empoisonnement des cadavres humains. Pratiqua per Duhamel per attirer la bestie, multipliquant les fosses à loups et diminuant le nombre de battues collectives per pas à Bena les cultures. Enfin, répartissant les hommes per douce, dans les hameaux ou dans mon mouché et demandant mai de chez limier. Le 20 d'avoust 1765, pendant une battue de ménade per Antoni, un gros loup, que pensait anthropophage, estua. Ah, hélas, les carnages, les chapelets reprennent.
Et voilà, hein, les carnages reprennent, les chapelets. Et le 18 septembre 1765, un gros loup est encore signalé à Antoine, mais en dehors du Gévaudan, en Auvergne. L'équipe d'Antoine tue ce loup énorme quelques jours après. Son fils présente la dépouille du loup aux autorités à Clermont-Ferrand. L'animal est embaumé et présenté au roi. Et pour le pouvoir et la presse, on est enfin délivré de la bête féroce qui pendant si longtemps a désolé le Gévaudan et l'Auvergne. Antoine est auréolé de gloire et pour la monarchie, l'affaire est close.
Période, à la début de décembre 1765, les attaques reprennent. À cette époque, sont les Cassaires et Lucas qui interviennent, toujours sous la conduite du noble Gévaudanès, qui est le plus important, est le marquis d'Apcher. Les casses de 1766 sont infructueuses, mais le nombre d'agressions baisse. À la prime de 1767, les agressions tournent à maille augmentent. Donc, On va relancer les battues, disperser les cadavres empoisonnés d'animaux domestiques à Questeco. Et le 19 de juin 1767, pendant une grande battue de 330 hommes, organisée par le marquis d'Apcher, Jean Chastel va tuer d'un coup de fusil un loup fort énorme que sa femelle sera abattue 13 jours après.
Et voilà, enfin, les attaques vont cesser définitivement. C'est la fin de l'affaire de la bête du Gévaudan, bien que les loups demeurent présents dans la province. Un historien de la bête, l'abbé Pourchet, écrit 100 ans plus tard, en 1889, alors je cite, « Quand la bête lui arrive, Chastel lisait les litanies de la Sainte Vierge. Il la reconnut fort bien. Mais par un sentiment de piété et de confiance envers la Mère de Dieu, il voulut finir ses prières. Après, il ferma son livre, il plia ses lunettes dans sa poche et prit son fusil. Et, à l'instant, tua la bête qu'il avait attendue. »
Brave.
Voilà, bien sûr, cela n'est qu'une légende. Enfin, en tout cas, la dernière histoire qu'on vient de raconter, parce qu'en fait, il n'y a aucun document qui n'existe à ce propos.
Alors, il existe une anecdote. L'histoire est déjà que portefait le courageux Pichot Pastre à propos de cette bête. Une histoire qui est rapportée par le cura de la paroque de Chanaleil. Le 12 de janvier 1765, cet enfant de Villeray et de Miel et Sindrol et d'autres chats qui gardaient le bétail sous une des plus hautes montagnes de Gévaudan sont attaqués par la bestie. Les Sindrol, il y avait Jacques Portefeuille, 12 ans, Jacques Couston, 12 ans, et Miège, Jean-Pic, 12 ans, Joseph Panefieux, Yotchan et Miège, et Jean Verrier, Yotchan. Les deux chats, Madeleine Schaus, 9 ans, et Jeanne Geffier. À ces enfants ont remarqué d'une bastoun, au bout de cas, avaient attaqué une lame de fer punchude. Et malheureusement, apercevaient la bestie qui, lorsque court fugué, proche d'elle.
Alors, les enfants se rassemblèrent, bien serrés, et se mirent en défense. Portefeuille, qui les dirigeait, se plaça sur le devant avec Couston et Pic, les garçons de 12 ans. Il mit les filles au second rang et derrière elles, les deux petits. La bête s'approcha et fit le tour du petit groupe. Elle saisit à la joue un des plus petits, Joseph Panefieux. Alors les trois plus grands fondirent sur elle, la piquèrent, mais ne purent pas lui percer la peau. Cependant, ils réussirent à lui faire lâcher prise. La bête se retira, emportant une partie de la joue de Joseph, qu'elle mangea devant eux.
Vengue tourna main et les attaqua, et renversé d'un coup de moure, l'humain joint Jean Verrier, et l'on affraie d'un coup des dents et l'abre. Les 13 mailles grands garçons, les droulasses, rébutèrent la bestie. Mais, par le 13e coup, la bestie, ronçait sur une maille pichot drôle, l'alagantait à mes la goule, par le bras, et l'emportait. Alors, toute la troupe y est corrigée après, encouragea par Portefeuille. Lucas faisait passer Couston d'un costa et de l'autre pour que la bestie passe à travers une fangasse qui se situait à 50 pas d'elle. La bestie s'engageait dans cette fangasse et fugait arrêtée dans sa course. Portefeuille, qui courait vers la bestie, criait à ses camarades qu'il fallait délivrer le pichot verrier ou mourir tout à mieux. Crider les autres enfants qu'il fallait attaquer le loup à la tête, aux yeux et à la goule.
La bête tenait toujours sous sa patte l'enfant qu'elle avait saisi, mais elle n'eut pas le temps de le mordre étant occupée à éluder les coups qu'on cherchait à lui porter. Au dernier coup que Portefeuille lui porta, la bête fit un saut en arrière, laissant le petit verrier dans le bourbier. Portefeuille se mit alors entre la bête et le petit, qui s'accrocha derrière la bille de celui-ci. Alors, la bête se retira et prit la fuite.
L'esprit de caoutchouc une porte fée fut qu'éconégu et Louis le XV le récompensait en le pensionnant comme pupille réel, ainsi pour ce qu'il fait d'études à Montpellier.
Et on va qui donc à caoutchouc qui est courageux et qui a bien fait l'affaire.
Conclusion de cette affaire de la bête du Gévaudan, c'est qu'elle a duré déjà de 1764 à 1767, donc c'est long. Cette bête a agressé près de 350 personnes et en a mangé une centaine d'autres. Elle les a mangées. Les deux tiers des personnes tuées avaient entre 5 et 15 ans. Et pour la plupart, bien sûr, c'était des petits gardiens de bétail. Le tiers restant concerne des adultes et principalement des femmes qui étaient sans défense ou attaquées par surprise.
Vaki. Le gaubi.
Plus léger.
Mais léger. Le bestiari. Savez ce que veut dire le bestiari?
L'ensemble des bêtes.
Vaki, l'ensemble des bêtes. Oui, d'accord. Et une bestiassade. Savez ce qu'est une bestiassade? Regarde Melo à qui on a fait une bestiassade. Ou alors on pourrait dire une bestialade.
Une bêtise?
Vaki, une grosse bêtise. Une azenade, c'est dit en bien. C'est dit en bien une azenade. Et alors, comment on dit c'est une brute. Celui-là, c'est une brute.
Une bestiasse?
Oui, est une bestiari. Un bestiaire, c'est une brute. Et elle se bestie comme une toupine. Ou alors, disait, elle se bestie comme un esclos, ou comme une piotte, ou comme une auque, ou comme un calosse.
Ben, il y en a des bestiaires.
Il y a des bestiaires. Alors, avec la chauxide, bestie comme une toupine, va qui. Et il y a une expression también qui s'est dit, regarde l'eau quand elle est saoulée, ça ou la bestie qui nous mène.
Ah, ça veut dire quoi? Quand il est seul.
Regarde-le, quand tu es saoulé, ça ou la bestie qui mène. Eh bien, ça veut dire qu'il est un simple d'esprit, quoi. Il sait qui mène.
Ah, c'est pas évident.
Et si c'est un bel faillot, ça veut dire ce que vous dire?
Non, j'ai pas compris.
Si c'est un bel faillot, ça veut dire que tu es bien bête, hein. Tu es bien bête.
Un beau haricot,
un faillot, un bel
haricot. Alors.
Et per acaba, ben, tout est douce, allez me faire venir cabre.
Ah,
allez me faire venir cabre.
Ah, c'est dur.
Et ça veut dire, en français, on dit tu me feras tourner en bourrique.
Oui, d'ailleurs,
tu as raison. Eh bien, je vous propose d'écouter encore une petite canson. Donc, le groupe qu'avait entendu, à qui, là?
Tout le long, c'était un seul groupe, hein, de
va
musique.
Va qui. Famille Artus, donc, et Artus, qui a un prénom, n'est pas d'en parler un jour. Et donc, on a écouté Lou Merlot, père famille Artus. Qui donc arrivait à la fin de notre émission avait parlé d'une poulie de bestie. Hein?
Poulie de savait pas. Hein? Non, l'histoire est affreuse avec la joue arrachée, mangée.
Méchante, méchante bestie. Hein? La bestie de Gévaudan. Okay. Donc, era l'émission de l'association Benleu et de l'Institut d'Études Occitan de la Vaucluse. As ben parla!
Maïdé Casdi!